Washington, la Voix de l'Amérique, Amigro Didier avec vous pour cette édition de Carrefour Science et Santé, un programme que je vous invite à suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres tout d'abord, un nouvel ancêtre de l'homme mis à jour en Afrique du Sud.
C'est un petit hominidé, hein, il fait un peu moins d'1m50, peut-être 45 kilos. Il a un cerveau tout petit, à peine plus gros que celui d'un chimpanzé. Mais il se déplace très bien, il a un pied très moderne.
Alain Froment, directeur de recherche au Musée de l'Homme à Paris, nous offrira des précisions. Fin du congrès forestier mondial de Durban en Afrique du Sud. Pourra-t-on un jour guérir la surdité chez les enfants? Tel est l'espoir de chercheurs américains.
Dans une récente étude, les scientifiques se sont intéressés à un gène en particulier appelé TMC1.
D'autres précisions avec Morgan Guiriec et une équipe d'astronomes américains affirme avoir repéré une galaxie née à l'aube de l'univers. Des chercheurs ont mis à jour en Afrique du Sud un nouvel ancêtre de l'homme. Ils ont exhumé en 2013 au fond de la grotte Rising Star, près de Johannesburg, les ossements de près de 18 hominidés. Cette nouvelle espèce du genre humain a été baptisée Homo naledi, c'est-à-dire étoile en Sesotho. Elle appartient au genre Homo comme l'homme moderne. Les ossements ont été retrouvés sur un site archéologique classé berceau de l'humanité par l'UNESCO et cette découverte pourrait permettre d'en apprendre davantage sur la transition il y a environ 2 millions d'années entre l'australopithèque primitif et le primate du genre Homo, notre ancêtre direct. Anastasie Toudiech a demandé à Alain Froment, anthropologue et directeur de recherche au Musée de l'Homme à Paris, à quoi ressemblaient ces nouveaux ancêtres.
C'est un petit hominidé, hein, il fait un peu moins d'1m50, peut-être 45 kilos. Il a un cerveau tout petit, à peine plus gros que celui d'un chimpanzé, mais il se déplace très bien, il a un pied très moderne et des mains qui sont capables d'une grande agilité, donc de tailler des outils. Il est donc certainement sur le rameau qui conduit aux hommes actuels, mais on n'a pas trouvé d'outils dans la grotte où il a été découvert, donc pour le moment on ne peut raisonner que sur son anatomie.
Quel âge a-t-il, cet Homo naledi ?
Grande question, les auteurs n'ont pas été capables de donner l'âge parce que en fait c'est une découverte presque de surface, et c'est ça qui est d'ailleurs extraordinaire. C'est au fond d'une grotte qui est très peu accessible et tout se passe comme si la quinzaine d'individus qui ont été retrouvés avaient été déposés là volontairement. Donc même si l'âge est estimé à au moins 2 millions d'années ou peut-être 3, sans qu'il y ait d'arguments géologiques pour le moment, en tout cas pour des hominidés aussi archaïques, c'est très étonnant et très nouveau. C'est la première fois pour une époque aussi ancienne où on voit un souci de mettre le mort quelque part.
Est-ce que vous pouvez nous situer cette Homo naledi par rapport à Lucie, la mère de l'humanité ?
Lucie n'est justement pas la mère de l'humanité, elle est sur une branche un petit peu collatérale. Mais ce qui a été frappant avec Lucie, c'est que pour la première fois, on avait un squelette presque complet d'Australopithèque. Et là, on n'en a plus qu'un. En fait, évidemment, les 15 individus ne sont pas tous complets, mais on a toutes les parties du squelette très détaillées, par exemple des mains et des pieds complets, des hommes, des femmes, des enfants.
Que peut nous apporter cette découverte, Alain Froment ?
Alors évidemment, ça confirme le rôle prépondérant de cette zone d'Afrique pour fournir des fossiles. Hein, c'est cette zone qu'on appelle berceau de l'humanité depuis le premier Australopithèque qui a été découvert dans les années 1920. Et donc là, ce qui est marquant, c'est surtout la quantité des individus. Hein, pour des périodes aussi anciennes, c'est inégalé. La seule référence, c'est des Néandertaliens d'Europe centrale, mais alors là, c'est beaucoup plus récent, le site de Crapina, qui a peut-être une centaine de milliers d'années à peine. Et puis, en Espagne, le site d'Atapuerca, où on a vers 400 000 ans une accumulation de plusieurs dizaines d'individus. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus récent que la période qui nous concerne là, qui est certainement antérieure à 2 millions d'années.
Alain Froment, directeur de recherche au Musée de l'Homme à Paris. Ici Washington, Camille Gros-Didier qui vous accompagne pour Carrefour Science et Santé sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Une équipe d'astronomes de l'Institut de technologie de Californie, Caltech, affirme avoir repéré la galaxie la plus lointaine jamais aperçue. Or, la physique classique ne saurait expliquer cette découverte. Anne Albertson nous en dit plus.
La galaxie en question, surnommée EGS-8P7, se trouve à 13,2 milliards d'années de la Terre. Alors que le Big Bang, la gigantesque explosion à l'origine de notre univers, remonte à 13,8 milliards d'années. Donc, EGS-8P7 se serait formé seulement 500 millions d'années après la naissance de l'univers, alors qu'il a été composé d'une soupe de particules chargées qui aurait absorbé tout rayonnement émis par de jeunes galaxies. Néanmoins, la galaxie que nous avons observée, EGS-8P7, qui est exceptionnellement lumineuse, pourrait être alimentée par une population d'étoiles inhabituellement chaude. Elle pourrait avoir des propriétés spéciales qui lui ont permis de créer une grosse bulle d'hydrogène ionisé beaucoup plus tôt que ce qui est possible pour les galaxies plus typiques de cette époque, a expliqué dans un communiqué Cirio Belli, un chercheur de Caltech. L'un de ses collègues, Adi Zetrin, qui a également collaboré au projet, avoue que EGS-8P7 pourrait forcer les scientifiques à réviser le calendrier établi pour la formation des galaxies dans l'univers primitif.
Vous êtes à l'écoute de Carrefour Science et Santé, un programme de VOA Afrique, diffusé sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Apple vient de dévoiler une série de nouveaux produits, incluant un boîtier multimédia Apple TV, repensé, et de nouveaux modèles de l'iPhone dotés de technologies novatrices. Le point avec Jacques Aristide.
Les deux dernières versions en date de l'iPhone 6S et de l'iPhone 6S Plus sont de la même taille que les versions précédentes, mais viennent équipées d'un appareil photo de définition accrue, de puces plus rapides et de la technologie 3D Touch qui tient compte de la pression plus ou moins forte exercée par le doigt sur l'écran tactile. Tim Cook, le PDG du groupe, a également dévoilé l'iPad Pro, une tablette dotée d'un écran de 32,77 cm de diagonale. This is unlike any keyboard you've ever used before. Cela ne ressemble à aucun clavier que vous ayez déjà utilisé. Il est couvert d'un tissu fabriqué par Apple. Ce tissu forme la couverture, mais aussi la structure de la sensation offerte par les touches du clavier, et elles sont vraiment fantastiques au toucher, explique Phil Schiller, le vice-président d'Apple. Le nouveau boîtier Apple TV a également suscité beaucoup d'intérêt, car il disposera désormais de son propre magasin d'applications et pourra obéir à la voix grâce à l'intégration de l'assistant numérique Siri déjà présent sur l'iPhone. Les développeurs pourront en outre créer des applications dédiées, y compris des jeux vidéo. Mais il n'intègre toujours pas un accès à des contenus originaux, en dépit des efforts d'Apple pour conclure des accords avec des producteurs de programmes. Le nouvel iPad Pro, lui, pourra être équipé d'un stylet dénommé le Pencil, ce qui lui permettra de rivaliser avec Samsung, qui propose déjà depuis 4 ans un stylet sur sa gamme Note, composé de smartphones et tablettes. Cet accessoire qu'Apple semblait avoir remisé au placard est en fait devenu indispensable sur des générations de mobiles et de tablettes.
Ici Washington, Camille Gros-Didier qui vous accompagne pour Carrefour Science et Santé. Pourra-t-on un jour guérir la surdité chez les enfants? Tel est l'espoir de chercheurs américains. Morgan Guiriec.
Des chercheurs du Boston Children's Hospital dans le Massachusetts œuvrent à la mise au point d'une nouvelle thérapie génique pour traiter la surdité précoce d'origine génétique. Dans une récente étude, des scientifiques se sont intéressés à un gène en particulier appelé TMC1. Ils ont introduit dans le conduit auditif de petites souris sourdes une copie fonctionnelle de ce gène TMC1, crucial dans l'audition, et ce grâce à un virus du rhume inoffensif. Notre stratégie a été de prendre un vecteur viral, de supprimer les gènes viraux de sorte qu'ils ne rendent personne malade, et de les remplacer avec la séquence d'ADN correcte pour le gène TMC1, explique Jeff Hold, chercheur principal du projet. Nous avons découvert que nous pouvons rétablir en partie le fonctionnement de l'oreille, ajoute-t-il. Plus de 70 gènes peuvent entraîner la surdité lorsqu'ils sont porteurs de mutations. Relativement fréquentes, les mutations sur le gène TMC1 sont impliquées dans 4 à 8% des cas de surdité héréditaire. Les enfants porteurs de deux copies défectueuses de TMC1 souffrent de pertes d'audition profonde dès l'âge de 2 ans. Ceux qui conservent une copie fonctionnelle de ce gène, mais pas l'autre, perdront progressivement l'ouïe à partir de 10 à 15 ans. Les auteurs de l'étude espèrent tester leur approche sur l'être humain dans les 5 à 10 prochaines années.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, Camille Grosdidier avec vous pour Carrefour Science et Santé. La récente journée africaine de la médecine traditionnelle a été célébrée sur le thème « Réglementation des tradis praticiens de santé dans la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé ». À cette occasion, le président de l'association des tradis praticiens du Niger s'est félicité de l'intérêt porté au développement de la médecine traditionnelle dans le pays et il a aussi rappelé à ses confrères l'importance du respect de la loi et des règlements en vigueur en matière de la pharmacopée traditionnelle. Les tradis praticiens de santé sont une source importante de soins de santé pour de nombreux Africains et l'on estime que 80% de la population se fait traiter par cette catégorie de praticiens de santé. Mais voilà, l'OMS avertit qu'il est nécessaire d'établir et de renforcer les systèmes de réglementation dans les pays par l'identification et l'accompagnement des praticiens qualifiés et la protection du public contre les pratiques potentiellement néfastes. Au Cameroun, signale notre correspondant à Yaoundé, les tradis praticiens sont menacés par des imposteurs. Ceux-ci s'improvisent sans véritables expertises. Une situation qui suscite de graves préoccupations, d'autant que 80% de la population a recours à leurs services. Je vous propose de suivre ce reportage de Moki Edwin Kinzeka.
La médecine traditionnelle qui assure pourtant le soin de 80% des Africaines selon l'OMS est menée par les nombreux problèmes, dont le phénomène de faux tradis praticiens. Les populations s'en offusquent. Rike Egula, résident de Yaoundé.
La médecine traditionnelle, pour moi, est l'une des meilleures médecines au monde. Mais actuellement, il y a trop d'imposteurs. Il y a ceux qui s'autoproclament tradis praticiens alors que ce sont les charlatans. Et ça fait qu'actuellement, beaucoup de personnes ont peur maintenant d'aller vers les tradis praticiens. Quand je dis vers les tradis praticiens, je parle bien sûr des vrais tradis praticiens.
Les tradis praticiens sont les premiers à avoir diagnostiqué les maux dont souffre la médecine traditionnelle au Cameroun. Une thérapie appropriée est d'ores et déjà mise au point. Arthur Bellinga est tradit praticien.
On est conscient que notre milieu est infesté, la médecine traditionnelle, par des faux tradis praticiens. Ils sont nombreux, ces arnaqueurs, qui promettent la guérison aux patients, mais qui ne tiennent pas toujours parole. C'est justement pour écarter ces arnaqueurs que nous avons décidé de nous regrouper en association des vrais tradis praticiens. Nous échangeons nos expériences, nos découvertes.
En dépit des intrusions malsaines, la médecine traditionnelle connaît des avancées significatives. Elle fait désormais bon ménage avec la médecine moderne. Le professeur Arthur Essomba est le directeur des soins au ministère de la Santé publique.
La médecine traditionnelle est basée sur la connaissance du patrimoine herboristique. Un certain nombre de médicaments, même dits modernes, sont issus des plantes. Il y a donc une connaissance de l'herbier, on parle d'herbier national, qui peut être utile pour pouvoir traiter les populations camerounaises.
Toujours dans le registre des avancées, la médecine traditionnelle camerounaise a son mot à dire sur la scène africaine. Cela a été souligné à grands traits lors des festivités marquant la 13e journée africaine de la médecine traditionnelle, célébrée sous le prisme de la réglementation des tradis praticiens. Un thème qui épouse bien l'air du temps au Cameroun. Moki Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
Camille Grosdidier pour Carrefour Science et Santé sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Durban en Afrique du Sud a accueilli cette semaine le 14e congrès forestier mondial qui a porté sur la nécessité pour les gouvernements, la société civile et le secteur privé d'accroître les investissements dans les forêts comme clé du développement durable. Le point avec Michel Joseph.
La rencontre a eu lieu sur le thème « Les forêts et les populations, investir dans un avenir durable ». À cette occasion, les participants ont passé en revue les moyens d'exploiter tout le potentiel des forêts pour sortir les populations rurales de la pauvreté, pour mitiger le changement climatique et inspirer de nouvelles technologies ainsi que des produits renouvelables. Des milliers de participants étaient présents pour ce congrès qui se déroule tous les 6 ans. C'était la première fois que le congrès se tenait sur le sol africain depuis sa création en 1926. À cette occasion, la FAO a lancé son évaluation des ressources forestières mondiales 2015, qui fait le point de l'évolution des forêts de la planète au cours des 25 dernières années et fournit un état des lieux de la gestion durable de ces forêts. Des progrès ont été réalisés selon cet ultime rapport de l'agence onusienne. Même si elle se poursuit, la déforestation a ralenti grâce à de nouvelles plantations. C'est justement l'activité principale du fonds Moringa qui investit dans des projets agroforestiers durables. Claire Morin-Gibourg a joint à Durban le cofondateur du fonds Moringa, Clément Chenot.
Le congrès forestier mondial est un peu l'événement majeur de la filière. Il a lieu tous les 4 ans. Le dernier était en Argentine et il rassemble un peu tous les acteurs importants, à la fois les acteurs publics, gouvernementaux, toutes les grandes ONG, mais aussi le secteur privé, les industriels de la filière, des investisseurs comme nous. Et puis donc cette année, c'est à Durban, donc en Afrique. Donc il y a aussi beaucoup d'acteurs africains présents. Donc pour nous, c'est l'occasion de rencontrer beaucoup de monde et de trouver de bons projets dans lesquels nous pourrions investir.
Parce que vous êtes un fonds qui aide en fait les entrepreneurs.
On est un fonds d'impact et à l'agroforesterie. C'est-à-dire qu'à la fois, on investit dans des projets qui sont rentables, mais aussi qui préservent l'environnement et qui apportent des bénéfices significatifs aux populations locales. Donc on investit en Amérique latine et en Afrique subsaharienne. Donc en effet, on cherche de bons entrepreneurs africains qu'on va pouvoir supporter pour développer ces projets agroforestiers ensemble.
Et vous lancez une facilité d'assistance technique pour aider justement ces entrepreneurs, mais à développer donc des projets bien sûr forestiers durables.
C'est en fait un partenariat public-privé entre donc, le fonds Moringa, mais aussi des banques publiques de coopération. Donc nous allons lancer cela avec l'Agence française de développement. Et cette facilité d'assistance technique a pour but principal d'aider, de renforcer les capacités de ces entrepreneurs africains pour qu'ils aient accès à des financements comme ceux du fonds Moringa.
Clément Chenot, cofondateur du fonds Moringa, premier fonds mondial d'agroforesterie. Selon Kenneth McDicken, expert de la FAO, les pays de la planète font également des progrès pour répertorier leurs forêts. Ils sont désormais 112 à le faire.
Le rythme auquel les forêts sont abattues pour être transformées en exploitation agricole s'est ralenti. Ce phénomène, constaté surtout dans les pays du Sud, est en baisse.
Néanmoins, entre 1990 et 2015, 129 millions d'hectares de forêts ont disparu à travers le monde, en majorité en Afrique subsaharienne et en Amérique du Sud. Certes, des politiques ont été mises en place pour protéger les ressources forestières. Encore faut-il les appliquer, note la FAO. Autre défi, l'impact humain sur les forêts. Depuis 1990, la population mondiale a augmenté de 37% et la demande de produits agricoles de 40%, rappelle Kenneth McDicken.
Je pense qu'on doit se préoccuper de la superficie forestière. Nous utilisons plus de bois que jamais. Nous utilisons 200 millions de mètres cubes de plus de bois qu'en 1990. Ce bois doit venir de quelque part. Il fournit des produits importants dans tous les domaines. Il n'y a probablement personne sur Terre qui n'utilise pas le bois sous une forme ou une autre.
Parmi les effets néfastes de la déforestation, selon l'expert de la FAO, les incendies, les nuées d'insectes destructeurs ou encore l'essor des maladies qui ne disparaissent plus durant l'hiver, le froid étant moins intense. Aux États-Unis, par exemple, des millions d'hectares d'arbres de montagne ont disparu, victimes du dendrocrone du pin Ponderosa. Au terme du congrès de Durban, les participants ont adopté un programme intitulé Vision 2050, appelant à renforcer la contribution des forêts et de la foresterie à un avenir durable. L'espoir étant que ce programme contribuera à un nouvel accord sur le climat lors de la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques prévue à Paris en décembre.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique et vous suivez Carrefour Science et Santé au micro Camille Gros-Didier. Le trimaran de la fondation Race for Water Odyssey, la course de l'Odyssée pour l'eau en français, se rapprochait cette semaine de l'archipel des Chagos, un ensemble de 55 îles nichées au cœur de l'océan Indien à l'est des Seychelles. Rappelons que cette expédition scientifique et environnementale partie de France est vouée à alerter l'opinion mondiale quant au problème des monceaux de déchets plastiques qui polluent les océans, formant des vortex gigantesques. L'expédition, qui doit durer presque un an, consiste à se rendre sur les plages des îles situées dans les cinq principaux vortex de déchets. C'est afin de dresser un état des lieux global de la pollution des océans par les plastiques. Dans un second temps, après analyse des données, il s'agira de mettre au point des solutions concrètes à cette tragédie. On estime que plus de 260 millions de tonnes de plastique polluent actuellement les océans. Selon Marco Simeoni, président de la fondation Race for Water Odyssey, l'équipe profite de ces escales pour établir des contacts et en apprendre davantage sur les méthodes locales de recyclage et de gestion des déchets. Au Japon, par exemple, l'équipage de Race for Water Odyssey a visité des institutions scientifiques afin de participer à des ateliers et des colloques relatifs aux problèmes de pollution par les plastiques. L'objectif étant d'évaluer son impact sur la vie quotidienne au Japon, son échelle sur les côtes ainsi que les mesures à prendre pour la limiter. L'équipage a également cherché à sensibiliser les jeunes. Que peuvent faire les particuliers pour réduire la pollution? Eh bien, on écoute la réponse de M. Simeoni.
Peut-être juste quelques chiffres pour vous donner la notion de l'ampleur du problème. Aujourd'hui, on fabrique à peu près pour 240 millions de tonnes de plastique par année. 10% de ce plastique-là finit chaque année dans les océans. La pollution des océans, elle est due à 80%, elle est due au plastique. Et ces plastiques, avec les années, se décomposent en microparticules. Et une fois que c'est de la microparticule, c'est presque plus possible de nettoyer. C'est mangé par les oiseaux, c'est mangé par les poissons. Donc on est vraiment face à un désastre écologique majeur. Donc pour éviter ce désastre-là, il faut travailler sur beaucoup d'axes. Mais un des premiers axes, c'est essayer d'éviter d'utiliser ce qu'on appelle du plastique à usage unique. 35% de la production mondiale de plastique est considérée comme du plastique à usage unique, c'est-à-dire que la durée de vie est d'environ 20 minutes. On prend le produit, on le déballe ou on consomme le contenu et on le jette. Et il faudrait vraiment, vraiment arriver à limiter, voire interdire certains plastiques à usage unique. Ça serait déjà une très belle démarche. Et puis, bien sûr, il ne faut absolument pas jeter le plastique dans la nature. Il faut utiliser les réseaux de tri et de recyclage.
Au quotidien, un particulier peut tout simplement ramasser un déchet en plastique qu'il voit dans la rue.
Ah ben ça c'est sûr, la conscience on va dire individuelle devrait faire que chaque personne qui trouve des déchets à côté de lui les ramasse. Il faut beaucoup travailler l'éducation des générations futures, l'éducation de nos enfants, puisque notre génération, ma génération, on n'a pas été exemplaire.
Marco Simeoni, président de la fondation Race for Water Odyssey. Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Gros-Didier qui vous remercie de l'avoir suivie.